Histoire de voir, histoire au pluriel, une émission sur les révoltes, luttes et résistances populaires avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs, des artistes. Rendez-vous tous les mardis de 13h à 14h en direct ou en différé sur laclédesondes.fr. Histoire de voir, histoire au pluriel.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous ne sommes pas en direct, nous avons réalisé un entretien pour Histoire de voir, histoire au pluriel, avec Vincent Taconnet, qui est vice-président d'Espace Marx Gironde. Nous avons interviewé Sandra Barrère autour du livre qu'elle a écrit, « Écrire une histoire tue », T-U-E. C'est à propos du massacre de Sabra et Shatila dans la littérature et l'art, puisque l'histoire, du moins au Liban, ignore totalement cet épisode qui s'est déroulé il y a environ 41 ans, entre le 16 et le 18 septembre, à savoir deux camps de réfugiés, Sabra et Shatila, à Beyrouth, ont été investis par les phalanges chrétiennes qui ont massacré entre 1400 et 3500 personnes, puisqu'il y a eu les massacres sur place. Mais il y a eu aussi des gens enlevés et liquidés dans des régions lointaines de Beyrouth. Tout ça sous l'œil de l'armée israélienne et la complicité de fait des grandes puissances qui ont laissé faire, alors qu'elles devaient théoriquement protéger ces populations civiles après le départ d'Arafat et de ses combattants. Voilà, vous en saurez plus en écoutant cette interview. Le livre il est paru aux éditions Classique Garnier. Je vous encourage à y jeter un œil, parce que, voire même à le lire complètement, parce que ce livre est fondamental pour comprendre comment les choses comme ça ont pu se faire, et surtout original, puisque, comme on le disait, je le disais tout à l'heure et vous l'entendrez dans l'émission, l'art, en fait, sert peut-être de sépulture à ces gens, femmes, enfants, qui ont été massacrés à cette occasion. Voilà, donc on vous souhaite une bonne émission. Je salue mes collègues qui seront là la semaine prochaine. Et puis à très vite sur La Clé des Ondes, la plus belle des radios, avec une émission qui essaie d'avoir un peu de tenue, histoire de voir, histoire au pluriel. À très vite.
Ces femmes qui s'avancent en tenant au bout de leurs bras ces enfants qui lancent des pierres vers les soldats, ces perdus d'avance, des cailloux sur des casques lourds, tout ça pour des billets retour d'amour, 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 d'amour. Les hommes, les anges, les vautours. Personne qui a les bras trop courts. Tout le monde y pense.
Nous recevons aujourd'hui dans Histoire de voir, Histoire au pluriel, Sandra Barrère, une amie, on peut dire, et quelqu'un qui vient d'écrire un livre fabuleux qui s'appelle « Écrire une histoire tue », un livre sur le massacre de Sabra et Shatila dans la littérature et l'art. Et nous nous proposons avec Vincent Taconnet, un ami aussi qui est rédacteur à l'Ormée, le journal de la Fédération du PCF de Gironde, et puis en même temps vice-président d'Espace Marx, d'aller un petit peu vous faire connaître ce livre qui est un livre très important, alors tant du point de vue de l'histoire du massacre de Sabra et Shatila, que de ce qu'il remue en fin de compte dans la mémoire, hein, on en parlera tout à l'heure dans l'intervention que Sandra fera. Donc ce livre, je le répète, ça s'appelle « Écrire une histoire qui tue, le massacre de Sabra et Shatila dans la littérature et l'art ». Il sort aux éditions Classique Garnier, hein, c'est un livre qui coûte 25 euros. Et surtout, vous pouvez noter dès à présent, on le redira à la fin d'émission, que le samedi 14 octobre à 14h, eh bien, il y a une rencontre Espace Marx à la machine à lire qui a lieu avec Sandra Barrère, qui parlera donc de ce que la Palestine apporte au monde. Et donc on en parlera tout à l'heure avec Vincent en fin d'émission. Merci d'être présente, hein, Sandra.
Merci à vous deux.
Voilà. Et donc, on va vous parler de ce massacre de Sabra-et-Shatila. Pour la plupart d'entre vous, ceux qui nous écoutaient, beaucoup sont jeunes. Il faut rappeler ce qu'était Sabra-et-Shatila.
Bien, moi, je voudrais ajouter quelque chose. C'est-à-dire que le titre donné par Sandra Barrère est un titre qui, dans son ambiguïté, est absolument superbe. Parce que écrire une histoire tue, bien évidemment, cette histoire, on a tenté de la taire, de ne pas en parler, de la rejeter dans l'oubli. Donc, il faut écrire une histoire qui a été tue, mais il faut ajouter, écrire une histoire tue, bien évidemment, d'une certaine façon, quand on rencontre par l'écrit de situations, de moments historique très grave, très lourd, ayant entraîné des conflits, eh bien, cela peut tuer. Rien n'est innocent, pas plus un écrit qu'une action ou qu'une œuvre d'art.
Oui, effectivement, ce titre, je l'ai voulu singulier. Ce mot « tue », qui est à la fois le participe passé du verbe « taire » et avec cette polysémie sur le verbe « tuer » aussi, m'intéresse parce que, eh bien, on est dans, bien sûr, une histoire qui est silenciée. Et comme par hasard, c'est une histoire qui parle de tragédie, qui a tué, effectivement.
Vous allez l'écouter, là, on a retrouvé en fait le journal télévisé du 18 septembre 1982. Patrick Poivre d'Arvor, et qui nous explique ce qui s'est passé dans ce camp. C'est une vidéo, hein, donc on n'aura que le son, mais le son en lui-même est absolument troublant et terrible.
Messieurs, bonsoir. Paroxysme de la furie des hommes, le Proche-Orient, les haines et les passions qu'ils suscitent. Hier, une voiture piégée devant un lycée parisien, attentat anti-israélien. Aujourd'hui, autre attentat antisémite contre une synagogue à Bruxelles, 4 blessés. Partout, la même lâcheté. Et puis, cet épouvantable massacre dont l'horreur grandissait de minute en minute à mesure que nous recevions les dépêches, il y a quelques heures, des dizaines, sans doute même des centaines d'assassinats d'hommes, de femmes et d'enfants dans deux camps de réfugiés palestiniens à Beyrouth-Ouest. Assassinats vraisemblablement perpétrés, selon les premiers témoignages, par les milices dites chrétiennes du commandant Haddad, allié des Israéliens dans la guerre du Liban. Les images que nous avons reçues il y a quelques minutes sont très dures. Nous en avons ôté l'insoutenable, mais il fallait que vous soyez prévenus. Voici donc le récit d'un massacre la nuit dernière.
La violence, la haine, a atteint ici son paroxysme. Les récits d'horreur de ceux qui ont réussi à échapper à ce massacre sont terrifiants. Des hommes en armes sont entrés dans les maisons, abattant sans distinction les femmes, les hommes et les enfants, dans ces deux camps de réfugiés de Sabra et Shatila, à la périphérie de Beyrouth. Ce massacre a vraisemblablement eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Les familles emportent les corps disloqués et racontent. Ils nous ont égorgés. Ils ont égorgé des enfants, beaucoup d'enfants. Les cadavres jonchent les ruelles étroites de ces deux camps de Sabra et de Shatila. Des dizaines de corps, des femmes, d'enfants, d'hommes. Selon certains témoins, le chiffre des victimes pourrait atteindre plusieurs centaines de personnes. Ces traces de balles sur les murs prouvent que ces hommes ont été délibérément fusillés. Des corps d'enfants. Un véritable récit d'horreur, sans doute une véritable nuit d'horreur, pour ces habitants de ces deux camps de Sabra et de Shatila, alors que les survivants fuient, agitant une chemise, comme drapeau blanc.
L'ONU a parlé de génocide, hein, acte génocidaire, dont il faut rappeler les faits. Les Palestiniens, comme vous le savez, ont été exclus de leur terre. sont entassés dans des camps. Il y a eu un premier massacre, Septembre Noir, quelques années auparavant, en Jordanie, qui fait des milliers de morts. Et puis là, sur le Liban, l'OLP est forte. Et donc Israël décide de régler le problème en autorisant les milices chrétiennes de venir massacrer, enfin sous leur protection, de venir massacrer les civils. Il faut savoir que quelques jours avant, Yasser Arafat a signé enfin un accord contraint et forcé pour partir avec ses hommes en Tunisie. L'USA, la France, l'Angleterre, l'Italie devaient protéger les populations civiles de la violence combattant de la phalange. Le 12, je crois, les Américains ont embarqué, puis ensuite les Français les derniers, et ensuite on arrive au 16 et 18 septembre.
Le 14, c'est l'assassinat. C'est cet assassinat qui fournit le prétexte aux forces libanaises d'entrer pour se venger en quelque sorte de ceux qu'elle regarde comme étant des...
C'est écrit par un personnage que vous connaissez sûrement, c'est Jean Genet. On en reparlera dans l'entretien. Alors les chiffres, c'est entre 1400 et plusieurs milliers de gens massacrés, puisqu'ils sont massacrés alors sur place pour la plupart, mais aussi dans des camps, dans des lieux où on ne sait pas trop.
Ils ont été raflés pour beaucoup.
Voilà. Alors encore une fois, il y a eu une enquête qui a été faite, les responsabilités...
Hommes, femmes, enfants, vieillards.
Et enfants en bas âge, avec des atrocités qu'on ne dira pas, ce n'est pas la peine. Mais vous pouvez imaginer. Il n'y a pas de lieu de mémoire, on va en parler tout à l'heure dans le bouquin, et que cette mémoire, elle existe par les interventions des artistes, sur différents supports. On parlait de sculpture tout à l'heure, mais il y a des films, il y a des livres, il y a la poésie, il y a la chanson,
et d'ailleurs,
la bande dessinée, vous connaissez La valse avec Bachir, vous connaissez des films comme Massacre ou Genet à Chatila. Ça, c'est notre introduction par rapport au livre lui-même, que je rappelle, ça s'appelle « Écrire une histoire tue ». C'est le massacre de Sabra et Chatila dans la littérature et dans l'art. C'est au Classique Garnier et Sandra Barrière nous fait l'immense honneur et le plaisir de venir nous en parler, accompagnée de Vincent Taconnet qui l'interviewera. Un peu de musique.
تعلموا الحسانة يتعلموا الحسام بلا موس بلا ما بيوص لي تام وش الاكلام يا علام. عالم فيك القتال وجايز عالم فيك القتال وجايز.
Ce qu'on vient d'entendre, c'est Nassel Riwan, chanson qui s'intitule Sabra wa Shatila, qui est sortie en 83 par le groupe emblématique qui est, pour ainsi dire, comme les Rolling Stones pour le monde arabe, qui dans la grande tradition à la fac Gnawa, Shabi et... en utilisant le dialecte des faubourgs de Casablanca, etc., rend un hommage à travers cette chanson extrêmement lyrique au massacre, au point que c'est devenu, dans la conscience arabe, c'est vraiment devenu un grand moment de mémoire et d'iconisation de l'événement. Beaucoup plus pour nous, évidemment, parce que c'est... ça se passe en arabe, mais voilà, c'est un très très grand moment.
Alors ils nous excuseront, ils vont nous accompagner tout au long de l'entretien, je mettrai les petits morceaux, parce que le morceau est assez long, il fait 10 minutes, donc là on a entendu plusieurs minutes de ce morceau, mais vous verrez, il y a, de manière répétitive, il y a une référence à Sabra et Shatila. On était là, on devisait aussi entre nous avant l'émission, et puis, chers auditeurs, il faut lire ce livre parce qu'il est passionnant, parce qu'il soulève énormément de questions, notamment par rapport à la mémoire, je l'ai dit en introduction, Sandra l'a dit, elle emploie d'ailleurs un terme mémoricide qu'elle nous expliquera tout à l'heure. Je sais que tu étais à l'Alliance française au Liban pendant un certain temps.
À l'Institut français,
voilà. Mais comment t'es-tu intéressé? Têtu, tu vois. Et c'est faut être têtu pour faire ce que tu as fait comme travail.
Un petit peu.
comment t'es-tu intéressé, si tu veux, à cette question du massacre de Sabra et Shatila et de l'absence de mémoire?
Alors, c'est une longue histoire, mais c'est vrai que ce massacre percute un peu ma biographie. Au moment où il se produit, j'ai 15 ans, et c'est vrai que quand je découvre les images aux 20h, j'ai quand même eu la sensation que le sol s'effondrait sous mes pieds par la vision de l'horreur. Ça, c'est un premier jalon, hein, et il se trouve qu'en effet, j'ai eu des responsabilités à l'Institut français de Beyrouth, et donc là j'étais vraiment auprès où cette affaire avait eu lieu, et surtout j'étais en position d'observation très très privilégiée par rapport aux livraisons qui se saisissait de ce moment, notamment dans l'ordre de la production artistique. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que je fais un certain nombre de constats. Et c'est là que, ensuite, j'enclenche une recherche. C'est que, un, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'historiographie, c'est-à-dire que c'est une histoire qui ne fait pas histoire. D'ailleurs, c'est une histoire qui ne fait pas histoire, on peut dire ça aussi, de toute la guerre du Liban. Puisque, en fait, dans les manuels scolaires libanais, l'histoire s'arrête en 1943, c'est-à-dire au moment de l'indépendance du pays. Et donc tout le récit de la guerre civile et donc de ce massacre qui se niche à l'intérieur de cette guerre civile, finalement il est le fait de récits qui se font par le prisme familial et donc probablement confessionnel, etc. Donc on est dans une espèce de silence, de tabou, bien sûr autour de la guerre du Liban, mais a fortiori autour de ce moment-là, un peu névralgique, qui a lieu pendant la guerre du Liban, les 16, 17 et 18 septembre 1982. Deuxième constat que je fais, il n'y a pas de sépulture, tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus, dès l'instant où il n'y a pas de sépulture, il n'y a pas de lieu où on peut se recueillir, il n'y a pas de lieu qui fait mémoire. Il y a effectivement, je l'ai découvert ultérieurement, il y a une fosse commune où on peut se recueillir, Faut-il avoir beaucoup d'imagination parce qu'il n'y a aucun nom, il n'y a aucun cartel pour expliquer qui, comment, où, etc. Bref. Et puis, troisième constat, que ce moment de grande violence, de violence sauvage, puisqu'on parle de corps à corps, hein, de massacre, fait l'objet d'une résolution à l'ONU, hein, le 16 décembre 1982, et ces exactions, dans une espèce de moment un peu d'audace de la part du Parlement du monde, on va dire, sont désignés d'une formule assez forte, puisqu'il est question d'actes de génocide. Hein. Donc c'est intéressant, parce que le terme de génocide, il n'est pas neutre. Donc voilà, et dès l'instant où il y a une résolution de l'ONU qui parle d'actes de génocide, on pouvait supposer que dans la foulée, il y aurait une espèce de judiciarisation de l'affaire, donc avec une enquête internationale et un processus de réparation. Et évidemment, il n'y a pas ça. Voilà. Donc je fais le constat de ces trois manquements, en fin de compte, et je fais le constat de trois manquements de trois institutions éminemment constitutives de notre civilisation, de nos civilisations. Hein. C'est-à-dire que la question de l'histoire, elle est fondamentale. Je veux dire, la question de la sépulture, c'est-à-dire du rite funéraire, hein, indépendamment ou non d'ailleurs de la relation à la religion, d'ailleurs. Hein, c'est important. On observe que dans toutes les sociétés, Il y a toujours un rite autour de la mort, parce que ce sont des moments extrêmement fondateurs dans lesquels on reforme la société et on la ressoude, et c'est comme ça qu'on peut se repropulser aussi. Oui. Hein. Autrement dit, la mort est aussi un flux de vie. Hein. Et cette troisième institution, à savoir la justice, qui n'est pas donnée. Ça, c'est quand même très, très problématique. D'ailleurs, ces trois constats, on peut les faire aussi pour le Liban d'aujourd'hui, hein, hélas. En même temps que je fais ces triples constats, je l'ai dit tout à l'heure, je suis très, très surprise de voir qu'il y a une succession de plusieurs livraisons de productions culturelles, d'ailleurs très hétérogènes ou hétéroclites, qui, dans l'ordre du roman, qui, dans l'ordre du cinéma, qui, dans l'ordre du poésie, etc. Et je me dis, mais voyons, je pars de l'hypothèse, et c'est ce qui enclenche mon enquête, mais est-ce que, par hasard, ces productions culturelles, autrement dit ces artistes, cherchent à compenser d'une certaine manière le vide des institutions? Et c'est la question qui propulse en fait ma recherche d'une manière effectivement très têtue, hein, puisque j'ai consacré 5 ans d'un travail assez acharné, hein, à ça, parce que je voulais tirer ce fil-là pour comprendre ce qui se passait.
Voilà. Alors c'est ce qui est intéressant, parce que le livre est divisé en 3 chapitres, que tu as abordé, 3 grands chapitres. C'est les rites funéraires, tu en as parlé.
D'abord dire.
Oui.
Dire ou se taire.
Ou se taire. Hein. Oui. Voilà, je suis têtu moi aussi.
Oui. Dire ou se taire, c'est-à-dire.
Voilà, et dans lequel tu abordes justement cette question que tu as soulevée là sur les rites funéraires, la nécessité d'accompagner pour pouvoir redonner une impulsion de vie, c'est ce que tu emploies comme expression.
Donc ça c'est dans enterrer les morts.
Enterrer les morts. Et ensuite, la troisième, donc, c'est la réparer l'humain dans l'art, justement.
Oui, oui.
C'est là où c'est intéressant, c'est que tu as une vision, et je t'en parlais, alors tu ne seras peut-être pas d'accord, mais que moi je trouve assez genrée aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est une vision qui n'est pas une vision de vengeance, une vision mais de qu'est-ce qu'on peut faire pour, tu vois. Hein, c'est comme ça que je ressens, je me trompe peut-être, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour dépasser ça? Alors là, tu donnes la parole aux artistes, différentes formes et tout, qui, par rapport à l'absence d'accompagnement, vont retravailler sur cette chose-là. Et là où le travail que tu fais est remarquable, c'est que tu mets ça en évidence. Donc, bravo. Alors, le bouquin, donc, j'ai dit, c'est 3 grandes parties. Et puis alors, c'est des annexes très importantes aussi, qui constituent une partie en soi, parce qu'il y a des interviews, et ça, on en parlera avec Vincent tout à l'heure, d'artistes, de personnes que tu as rencontrées.
Y compris de Lokman Slim qui a été assassiné depuis.
Voilà, donc ça aussi c'est très riche d'un point de vue documentation, interhistorique. Alors, Vincent, tout à l'heure tu as soulevé une question sur le rôle de l'artiste.
Oui, alors, moi je me demande si, dans ce cas très particulier et d'une certaine manière très révélateur, non pas les artistes se sont substitués aux historiens. On fait un constat, l'histoire n'a pas joué, c'est le moins qu'on puisse dire, le rôle qu'elle aurait dû jouer pour rendre compte de ces massacres et de toute cette période, mais d'une certaine façon comme une forme d'intervention propre à la formation aux envies, aux pulsions, aux émotions, aux volontés créatives de ces artistes. Parce que ce qui me paraît le plus intéressant, c'est à quel point ces œuvres sont variées et rendent compte chacune de manière souvent très forte de ce massacre. Mais quelquefois par un détail, quelquefois par une vue d'ensemble, avec des formes artistiques vraiment très différentes.
Oui, c'est vrai. Il se trouve que le corpus que j'identifie est vaste. J'ai identifié à ce jour une cinquantaine d'œuvres. J'ai aucune prétention d'ailleurs à l'exhaustivité et je suis toujours très heureuse quand on me signale une œuvre supplémentaire. Récemment, j'en ai découvert une dans l'ordre de la danse contemporaine, donc c'est très très formidable pour moi de voir que le corpus s'étoffe en fin de compte. Et à l'intérieur de ce corpus qui est déjà assez étoffé, j'ai effectivement décidé de faire un choix, parce qu'on ne pouvait pas rendre compte de tout, et j'ai choisi 14 œuvres. Ces 14 œuvres, je les choisis au regard d'un certain nombre de critères. Et un critère majeur pour moi, c'était en quoi les formes sont profondément travaillées par cette histoire. Je peux donner l'exemple du polyptyque de Dia Lazawi, qui est ce peintre irakien qui est un peu comme le Picasso pour le Moyen-Orient. Bien, voilà une œuvre qui, tout en faisant référence typiquement au Guernica que l'on connaît bien en Occident, invente des formes, puise aux sources de la Mésopotamie, Gilgamesh notamment, mais tout en et en fait il y a là une espèce de d'entrelacs de sens. D'ailleurs, la peinture ne se livre pas de manière simple. Il faut en faire, il faut rentrer dans cet entrelacs, un peu comme dans le labyrinthe des venelles des camps. Et ce qui est par contre assez perceptible d'emblée, c'est l'impression de chaos et de destruction. En fait, ce tableau, c'est le tableau de la destruction du sens. Et donc, dès l'instant où le sens est détruit, il ne peut pas y avoir d'histoire.
Oui, je voulais à ce propos, et à propos de Dia Al-Azawi, faire la remarque suivante. D'une certaine manière, il me semble qu'il répond à la question, mais pourquoi des œuvres artistiques alors qu'il y a une absence d'œuvres historiques? Or, quand il parle de sa peinture et de son acte de peinture, il dit « je peins pour rester debout ». Donc, par rapport à un historien, il y a une implication personnelle très puissante.
C'est un engagement qui d'ailleurs qui est un engagement de toute sa personne. J'ai rencontré Dia Al-Azawi, donc je peux témoigner de ça. C'est un engagement moral en réalité. Je peins pour rester debout, pour ne pas sombrer dans la folie. Il l'a dit deux fois devant moi. Et il dit aussi, voilà, Sandra, regarde, ça c'est ma manière à moi de documenter l'histoire.
Tout à fait, d'accord.
Et Et ça, j'ai trouvé ça assez puissant. Voilà, il est peintre, il est aussi sculpteur, il est donc artiste, et il n'est pas historien, mais sa manière à lui de documenter l'histoire, c'est donc à travers son art. Ouais. Je le disais, hein, d'iconisation, cette chanson de Nassel Rewan. On sent bien qu'il y a là une sorte de lamento, hein, on le sent dans le rythme. Et c'est vrai que c'est cette chanson, Sabra Bochatila, de Nassel Rewan, qui est encore une fois, c'est vraiment les Rolling Stones pour le monde arabe, ou bien les Beatles en fait. Avec cette chanson, ils apposent une pierre importante dans voilà, le processus d'iconisation et de mémorisation de cette affaire. C'est vraiment un grand moment dans la conscience arabe, cette œuvre musicale.
Eh bien, merci de nous l'avoir fait découvrir avec Vincent Taconnet, qui recevons aujourd'hui Sandra Barrère pour son livre « Écrire une histoire TUE, le massacre de Sabra et Shatila dans la littérature et l'art », parce que ça fait l'occasion de parler du livre, et puis de rappeler que c'était il y a 41 ans maintenant que ce massacre s'est tenu avec la complicité des États américains, israéliens et français aussi. Massacre surtout israélien, hein, bon, puisqu'ils étaient sur place et qu'ils ont aidé les phalanges à massacrer ces civils, en femmes, enfants, puisque les hommes avaient été expulsés de Beyrouth pour aller en Tunisie avec Yasser Arafat. Donc on était précédemment sur la question de l'art, hein, bien sûr. Mmh. On suit bien sûr un peu les pages du livre. Sur la troisième partie, c'est réparer l'humain dans l'art, hein, un peu. Et donc, on le disait précédemment avec Vincent, c'était que il y a énormément, une quarantaine d'artistes que tu as rencontrés. Ouais, ouais. Donc c'est pas une liste exhaustive parce que tu redécouvres à chaque fois de nouveaux créateurs ou des gens qui rappellent notamment cette absence de mémoire historique et qui dans leur création vont faire vivre en fin de compte la mémoire de ceux qui n'ont pas eu de sépulture, qui n'ont pas pu être accompagnés dans leur dans l'au-delà, on va dire, hein.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'histoire n'ayant pas joué son rôle, la justice étant absente, la sépulture ou les sépultures n'existant pas, d'une certaine façon, ces œuvres, dans le domaine de l'art, deviennent ou sont devenues des sépultures de ce massacre de Sabra et Shatila.
Oui, moi je pense effectivement que, par exemple, une œuvre assez emblématique, hein, celle de Jean Genet, 4 heures à Shatila, joue éminemment le rôle de... D'abord, c'est un texte très court qui est très informatif, en fait, qui documente cette affaire. Il se trouve que Jean Genet était sur place, hein, 72 ans, fort malade. Il avait eu ce flair, ce sens de l'histoire.
Il avait été invité par Leïla, je crois,
Chahid. Par Leïla Chahid, oui. Ouais, il était là, sur place. Il faisait partie des premiers à se rendre. Et il témoigne très rapidement à travers ce texte assez court qui est publié dans la Revue des études palestiniennes dès janvier 1983 et qui est d'ailleurs immédiatement traduit vers l'arabe, ce qui est un grand moment aussi. Et c'est vrai qu'à travers ce texte qui manifeste un discernement extraordinaire, avec des fulgurances dans qui fait quoi, à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Des intuitions qui, par suite, se révèlent très justes, hein, notamment la collusion entre les forces libanaises et l'armée israélienne qui se tenait aux abords des camps. Mais il y a aussi cette dimension très forte à travers même la structure même du texte, où on voit, vous savez, dans le rite funéraire, dans le monde arabe, il y a l'histoire du linceul dans lequel le corps doit être enveloppé plusieurs fois, etc. Et en fait, le texte, il fonctionne exactement comme ça. C'est-à-dire que le texte, il est lui-même, enveloppe l'histoire, puisqu'il y a, dans ce texte, il y a à la fois les images de l'horreur, que Genet
ne masque pas,
qu'il décrit d'ailleurs avec un sens quasi carnavalesque du récit, mais en même temps une grande, je ne sais pas si on peut dire émotion, mais en tout cas une sympathie manifeste pour ces Palestiniens. Et il met en regard la vision de l'horreur avec... Et ça, c'est très beau dans le texte, avec l'immense beauté de la révolte palestinienne dont il a pu témoigner, puisqu'il était dans les camps Al-Joun en Jordanie pendant 6 mois. Et il a donc vécu auprès des fédéines, il a vécu auprès des femmes dans les camps ensuite. Et donc, il illustre la beauté et la dignité de cette révolte de ce peuple qui se fait jeter hors de chez lui et qui décide de se redresser pour se défendre, en fin de compte. Et c'est aussi une manière de rendre un hommage au peuple de Palestine, que parler de la mort, de la destruction, mais aussi de et donc la structure même de ce texte fonctionne en réalité comme un linceul.
Une très jolie image. Hein.
Qui enveloppe l'histoire.
Comme un cocon.
Ouais.
Donc, tu viens de nous parler avec beaucoup d'émotion de Jean Genet et puis de son 4 heures à Shatila, hein, que j'encourage à lire tous et toutes. Donc, chaque artiste que tu vas rencontrer, chaque création, tu vas les décortiquer un peu pour retirer le linceul, pour aller voir un petit peu ce qu'il y a en dessous, pour voir comment l'artiste, lui, à sa façon, a fait, reprenant l'image du linceul, a fait une sorte a enveloppé, on pourrait dire, en fin de compte, sa création dans une référence. Donc, on a parlé tout à l'heure du peintre, de peinture.
De Diane Lazer, oui.
On a parlé, avant l'entretien, de sculpture aussi.
Oui. Hein? Alors, ça, c'est la sculpture de Sami Mohammad, qui est, lui, koweïtien. C'est une sculpture anthropomorphique, de petite taille, en bronze, dont il existe quelques copies, en fin de compte très peu visibles, achetées par des collectionneurs privés. Il y a un exemplaire à l'Institut du Monde Arabe. Il y en a un autre à la Bargil Art Foundation, qui est à Sharjah, donc aux Émirats, où je suis allée la voir. Et c'est une sculpture qui peut, pour nous occidentaux, paraître un peu kitsch par son aspect anthropomorphique. Et en réalité, quand on la place dans le contexte de l'Arabie, où elle est née, où elle a été forgée, puisqu'elle a été pensée et sculptée par Sami Mohammad à Kuwait City. Ensuite, elle a été fondue à Londres, hein, parce que les fonderies, il fait appel à des fonderies à Londres. Eh bien, il faut bien comprendre que dans le contexte de la péninsule arabique, qui est fortement, régie par la norme aniconique du régime saoudien, hein, c'est-à-dire que surtout pas de représentation du corps, parce que voilà. Quand on prend la mesure de ça, on se rend compte à quel point ce geste est transgressif.
Donc c'est un homme qui est mort, couché, il est mort, et son corps est livré en fait.
Et il est couvert de bandelettes. Et on pense très clairement, il y a une référence à un autre grand moment de l'art occidental, c'est la Pietà. Et d'ailleurs, quand j'ai posé la question, parce que je la lui ai posée, il m'a dit bien sûr, je suis allé voir la Pietà au Vatican. Donc pour lui, la référence, elle est évidente. C'est quelqu'un qui connaît très très bien l'art, toutes les productions de l'art, qu'il soit arabe, occidental, etc. Et donc, sauf qu'ici, c'est une Pietà sans mari. C'est une Pietà donc abandonnée, en fait, abandonnée de tous. De tous et toutes. Et ça, c'est vraiment... c'est la situation, c'est la condition de la Palestine, c'est en fin de compte.
Voilà, ou récupérer, pour des raisons diverses, récupérer le courant.
C'est très étonnant que cette histoire de colonisation qui dure depuis plus de 70 ans, on a affaire à des réfugiés qui sont les plus vieux réfugiés du monde et qu'on n'arrive pas à la résoudre. Ça veut dire que sur le plan... international, il y a une forme d'abandon. On a décidé d'abandonner les Palestiniens.
Alors, on a abordé l'art pictural, la sculpture. Avec Vincent, tous les deux, nous sommes amateurs de cinéma. Il y a le cinéma qui fait une part, beaucoup de reportages, beaucoup d'enquêtes qui ont été faites. Je citais tout à l'heure celle sur Genet à Chatilla, bien sûr, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis, il y a un film, Massacre, qu'on a vu. Alors, je me trompe peut-être, mais ce n'est pas dans celui-là où on interview, y compris les assassins.
Non, c'est un film qui est uniquement fondé sur le principe du témoignage. Ce sont des bourreaux, six bourreaux qui témoignent à un visage découvert.
Et donc, qui confirment les méfaits et les assassinats qu'ils ont commis. Et puis, il y a un film aussi qui est aussi sur une sorte de mauvaise conscience, c'est Valse avec Bachir.
Je ne dirais pas ça, ça c'est ta vision, mais Valse avec Bachir, moi je trouve que c'est un très grand moment du cinéma, d'abord parce qu'il y a une inventivité assez extraordinaire dans ce film. Traiter ça sous la forme de dessin animé, traiter la question de l'anamnèse, du retour de la mémoire. Je peux comprendre que pour... de la part d'un ex-officier de l'armée israélienne ayant participé, bien que en deuxième ligne, à cette affaire, ça peut paraître comme étant une forme une manière de penser. Ça a été vécu comme ça dans le monde arabe. En même temps, je trouve que il y a quand même une forme de courage dans ce film, puisque il établit un corridor temporel très très puissant entre ce massacre qui tue, on a dit 3500 morts, peut-être un peu plus, 3500 victimes, etc., et une autre apocalypse qui a eu lieu pour le coup sur le continent européen, à savoir le génocide des Juifs d'Europe. Et ça, c'était assez courageux en sa qualité d'Israélien, par ailleurs, fils de survivant d'Auschwitz. C'est vrai qu'on a beaucoup dit que c'était une manière de se déculpabiliser, etc. Mmh. En réalité, il y a un certain courage dans cette œuvre auquel il faut rendre grâce, vraiment.
Donc, il faut que je le revoie, quoi, en clair.
Oui, je pense, oui, oui.
Tu résumes la situation.
Parce que, vraiment, c'est une œuvre... Je ne sais pas ce que tu en penses.
Mais ce que j'en pense, c'est que, pour généraliser la question, ou la réponse plus exactement, les œuvres d'art sont souvent ambiguës, et le fait qu'elles viennent de quelqu'un qui est situé politiquement ou géographiquement n'entraîne pas nécessairement que les prises de position soient liées à ses origines ou à ses prises de position antérieures. Et j'en veux pour preuve, alors j'espère bien ne pas me tromper et ne pas tomber dans l'idéalisme total, mais on vient d'entendre quand même il y a quelques heures de hauts dirigeants ou ex-dirigeants israéliens dire que l'apartheid était le terme qui convenait pour désigner la situation des rapports entre Israéliens et Palestiniens. Or, ce genre de choses, ces mêmes hauts responsables ne les auraient jamais qualifiés de tels il y a 10 ans.
Tout à fait.
Donc il faut en prendre acte et souligner le courage que ça engage. Oui.
Donc, réparer l'humain dans l'art, dans ce registre-là. C'est aussi l'écriture.
Oui,
et
oui.
Là, tu as aussi fait un gros travail de recherche sur les différents écrivains qui ont écrit.
Oui, Wajdi Mouawad, par exemple, qui fait à travers Anima un travail très, très remarquable. On parle souvent... De concurrence des mémoires. Eh bien, lui, il met en scène, justement, à travers ce roman qui est absolument exceptionnel du point de vue de la narration, puisqu'il fait parler les animaux. Ce sont les animaux qui sont les narrateurs. Ce qui suppose un décentrement par rapport à cette vision humaniste qui fait de l'homme le centre de... Donc, on n'est plus dans l'anthropocentrisme, on est vraiment dans quelque chose d'autre. Il met en scène la possibilité de la mise en partage des mémoires et de la souffrance. Et il le fait à travers la mise en partage de la souffrance issue, bien sûr, de la colonisation et donc de Shatila, enfin le massacre étant un avatar de la colonisation par l'État d'Israël des Palestiniens. Il la met en lien avec la condition des Amérindiens au Canada.
D'accord.
Et donc le code de l'indigénat du Canada, condition qu'il a découverte quand il vivait au Canada, il a découvert des choses monstrueuses qui ont été révélées depuis, on sait que la condition d'Amérindien au Canada comme aux États-Unis est encore aujourd'hui une catastrophe.
Les orphelinats, notamment.
Voilà, la question des orphelinats, la question le fait que les enfants étaient retirés des familles pour
en fait, pour les blanchir, en quelque sorte. Et c'est, on parle de centaines de milliers d'enfants qui, jusque dans les années 87, je crois, ou 89, ont été retirés de leur famille. Bon. Donc, il fait ces parallèles. Et il fait la démonstration du fait que, en fait, là où on parle de mémoire souvent concurrentielle, c'est-à-dire que, eh ben, on peut justement fraterniser,
retisser
dans le partage de la douleur, voilà. Et ça, c'est très très puissant. C'est très
Retisser, j'emploie ce terme-là parce que c'est le 40e anniversaire du coup d'État au Chili.
Oui, 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 voilà. En effet.
Et donc, dans une exposition actuellement que j'invite les gens à aller voir au Colombie, on a reçu dernièrement Yvan
Quesada
qui nous a expliqué. Et il y a des femmes qui brodent.
Ah oui, formidable.
Et en fait, broder, elle, ça va tout à fait dans le sens de ce que tu viens d'expliquer, c'est de recomposer sur un...
C'est retisser,
avec les fils qui peuvent retravailler au sens réel du terme.
Comme métaphorique. Ouais.
Voilà, et donc c'est aussi ça, le travail, c'est la dernière partie que tu donnes, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce que tu expliques, parce que tu as fait ce constat-là, je me trompe peut-être, mais tu fais ce constat-là que, d'abord, sur place, il y a des Palestiniens qui créent, qui sont créateurs, mais il y a une diaspora très très importante, très créative, qui n'oublie pas d'où elle vient, et qui renouvelle la culture. Et puisqu'on en est aux anecdotes, et que j'ai eu grâce à toi la chance de rencontrer Leïla Chaïd, qui nous a fait beaucoup rire, parce qu'elle était en admiration devant une musique Jérusalem, où elle voyait des jeunes gens palestiniens danser sur cette musique, comme d'autres enfants du monde, israéliens, qui dansaient, et qui étaient aussi un message d'espoir un petit peu, pour dire qu'on n'oublie pas qui on est, mais on va,
Shilana Jerusalem ikayalami ilonoloze uhambe nami zungangishilana dawuyami ayikolana.
Voilà. Ce qu'il faut rappeler aussi dans le livre, c'est qu'il y a des photos, aussi, il y a des illustrations, une terrible d'ailleurs qui...
Oui, qui ça est, c'est un inédit,
une photo, on voit... En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour cacher et masquer leur crime, ils ont fait intervenir les bulldozers et ils ont tout déblayé, le corps, les corps y compris.
Ils ont recouvert les corps. Ouais. Cette photo est assez exceptionnelle.
Voilà, et on voit
les griffes de la pelleteuse.
De la pelleteuse qui soulève un petit cadavre d'enfant et qui. Voilà. Donc moi je pense qu'on arrive un petit peu au bout. Est-ce qu'on pourrait aborder une conclusion pour reprendre ce que tu as fait là.
D'abord vous remercier de m'avoir invité à parler de ce travail et dire aussi que. L'aboutissement de cette longue enquête que j'ai voulu, vous l'avez compris, un peu sérieuse, même si elle n'est pas exhaustive, et que j'espère d'autres pourront se saisir de cette dimension, l'aboutissement, ce sera un jour, je l'espère, avec l'aide notamment de Leïla Chaïd et d'autres, de réunir les œuvres que j'ai identifié dans une exposition et d'en faire un événement avec séminaires, cycles de films, colloques, tables rondes, et de faire en sorte que cette exposition puisse avoir une circulation dans le monde. On y travaille, on va dire, j'en suis à poser quelques... Allons, mais ce serait l'objectif.
Moi, j'ai une question indiscrète, peut-être, mais je pense que le livre va être traduit dans différentes...
Alors, pour l'instant, je n'ai pas de contact, mais... Par contre, je suis invitée, j'ai déjà restitué ces travaux, et ça m'a fait très plaisir à Ramallah, à la fondation Mahmoud Darwish. Ça, c'était un signal très fort. L'autre signal très fort, c'est qu'il y a une interview qui est parue dans le journal L'Orient le jour, qui est lu, qui est un journal francophone très lu au Liban. Et donc ça, c'était important que le Liban mette un peu le focus sur quelque chose de son histoire. Et l'étape ultérieure, j'espère, ce serait qu'il, à minima, il soit traduit vers l'arabe. Oui.
Ça serait important
parce que. Oui.
Donc Vincent, tu veux nous rappeler qu'il y a un prochain rendez-vous beaucoup plus proche hein.
Bien sûr, puisque le samedi 14 octobre à 14h, il y a la rencontre Espace Mars Machine à lire, qui est une rencontre trimestrielle. Et à cette occasion, Sandra Barrère, que vous venez d'entendre, animera un entretien sur l'ouvrage collectif publié par Araborama et l'Institut du Monde Arabe, l'ouvrage collectif « Ce que la Palestine apporte au monde », où il est question de bon nombre d'œuvres d'art, et sera présent pour discuter avec Sandra Barrère, tout simplement Elias Sambar, qui a été longtemps ambassadeur de Palestine à l'UNESCO, entre autres, parce qu'il a eu d'éminentes responsabilités. Donc nous nous félicitons de cette rencontre du samedi 14 octobre à 14h à la Machine à Musique, rue du Parlement Sainte-Catherine.
Oui, je suis très contente de modérer cette présentation en présence d'Elias Sambar, qui en plus de son rôle à l'UNESCO a été un grand traducteur quand même, et donc un grand passeur notamment de toute l'œuvre de Mahmoud Darwish. C'est grâce à lui et à Farouk Mardambé qu'on peut lire Mahmoud Darwish dans une qualité poétique qui est quand même assez exceptionnelle.
Eh bien, je remercie tous les deux. C'était un plaisir de vous recevoir, l'un comme l'autre,
Merci.
Je rappelle le titre du livre, c'est « Écrire une histoire tue ». C'est le massacre de Sabra et Shatila dans la littérature et l'art. Et c'est un livre qui, à la fois, nous rappelle ce qui s'est passé là-bas en septembre 82, il y a exactement 41 ans. Et qu'il est aussi porteur d'abord de beaucoup d'interrogations, d'approfondissement d'un certain nombre de choses, notamment de l'importance de l'art et puis comme moyen de réparer en fin de compte l'absence mémorielle ou l'absence d'entretien d'une mémoire sur des massacres de cette nature. C'est un long combat, on l'a vu pour les Arméniens par exemple, il a fallu beaucoup travailler. On a vu aussi pour la Shoah ce magnifique film qui avait été fait, qui s'appelait Shoah, qui a révélé au grand public. Donc on souhaite une carrière aussi importante pour que là aussi on n'oublie pas de dire qu'il ne s'agit pas ici de dénoncer de qui que ce soit, mais de rappeler simplement que ces victimes, elles sont mortes un petit peu à la fois dans l'indifférence, la complicité et la haine, et que ça, c'est des choses qu'il faut essayer de réparer. Voilà, donc à bientôt sur La Clé des Ondes, la radio qui accueille Histoire de voir, Histoire au pluriel, et merci à Vincent Taconnet, ici présent. Et surtout à toi, Sandra, que j'embrasse beaucoup et que je remercie.
Merci.
Histoire de voir, Histoire au pluriel. Une émission sur les révoltes, luttes et résistances populaires. Avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social. Des écrivains, des chercheurs, des artistes. Rendez-vous tous les mardis en direct de 13 à 14h ou en différé sur laclédesondes.fr. Histoire de voir, Histoire au pluriel.